Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine, présentée par Thierry Paco, philosophe de l'urbain.
Bonjour à toutes et à tous. Au menu de cette émission, un éditorial sur le ménagement qu'il faut préférer à l'aménagement. C'est du bon, mon avis. Une belle rencontre avec Alexandre Bertrand, architecte, urbaniste, éditeur, à propos du boulevard périphérique. Je laisse le mystère encore entier. Et puis, le sujet qui fâche avec Rémi Knafou, quel tourisme pour la planète ?
Urbanité. L'édito.
Je ne sais pas pourquoi j'exècre depuis bien longtemps, du reste, le mot aménagement. Je l'associe à des réunions d'hommes cravatés, dévissant devant une carte de France et décidant arbitrairement du tracé d'une autoroute ou de l'implantation d'une ville nouvelle. L'expression « aménagement du territoire » se trouve sous la plume d'Eugène Claudius Petit, professeur de dessin, résistant, devenu ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, et fidèle de Le Corbusier. Il écrit en 1950 pour un plan national d'aménagement du territoire. Il est vraisemblable que cette expression « aménagement du territoire », il l'utilise depuis 1947, parce que on la trouve, cette expression, en filigrane dans les matériaux pour une géographie volontaire de l'industrie française que des géographes élaborent à ce moment-là. Elle sera popularisée avec la création, en 1963, de la DATAR, Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, qui sera remplacée en 2014 par le Commissariat général à l'égalité des territoires. Elle caractérise la suprématie d'une super-technocratie masculine, énarque, inspecteur des finances, ingénieur des ponts et chaussées, qui depuis la capitale choisit la localisation des équipements collectifs, des centrales nucléaires ou des villes nouvelles, attribue des aides à l'industrialisation, dessine la carte des infrastructures, oriente considérablement le devenir des territoires, sans prendre en considération une seule fois la vie de leurs habitants. Assez vite, l'aménagement du territoire s'apparente à une politique centralisée, volontariste, reposant sur une prospective nationale ayant pour seule visée la modernisation de l'appareil productif et de son agriculture productiviste destinée principalement à l'exportation. Mais ce verbe « aménager » provient d'un autre verbe, le verbe « ménager », qui dérive de « ménage », qui lui-même vient du verbe « manoir », dorénavant « inusité ». Le verbe « manoir » signifie « demeurer »,« habiter », il est issu du latin « manere », qui signifie « rester »,« séjourner », qui donnera en français « maison »,« manse »,« ma »,« manant », »,« masure », et manoir, mais manoir, cette fois-ci, pas le verbe, qu'on n'utilise pas du tout, mais la résidence fortifiée du seigneur. Et puis, bien sûr, ça va donner ménage. Ce dernier terme est l'équivalent de l'administration des biens, comme dans l'expression « faire son ménage », ce qui veut dire « faire des affaires ». L'aménagement n'est pas l'opposé du ménagement, comme l'athéisme serait l'opposé du théisme, mais un mot qui a sa propre étymologie. Personnellement, j'oppose aménagement et ménagement en prenant appui sur le célèbre texte de Martin Heidegger, « Bâtir, habiter, penser », prononcé à Darmstadt en 1951, à l'occasion d'un colloque sur l'homme et l'espace. Heidegger, philosophe controversé, je le sais très très bien, s'attarde sur l'étymologie de ces trois verbes et concernant « bauen », remarque « Maintenant, le vieux mot « bauen » qui nous dit que l'homme est pour autant qu'il habite ce mot-là, toutefois signifie aussi « enclore » et soigner, notamment cultiver un champ, cultiver la vigne. Donc, d'une certaine façon, ménager veut dire prendre soin. Et Heidegger affirme un peu plus loin, le trait fondamental de l'habitation est ce ménagement. Avec mes mots à moi bien éloignés du vocabulaire sophistiqué de Heidegger, j'invite les praticiens, les élus, les étudiants à ménager. Mais ménager qui ? Les gens, les choses, les lieux et le vivant. Un tel ménagement réclame une disposition à la disponibilité qui se cultive, qui ne va pas de soi, qui se révèle exigeante, tant elle s'alimente d'attention intentionnée. Et puis, une telle démarche rompt avec les protocoles professionnels en vigueur. Quel artisan, quel architecte, quel géomètre, quel ingénieur se préoccupe des gens ? Ou alors via la concertation standardisée. Qui d'entre eux s'occupe des choses ? Ou alors en optant pour le matériau le moins cher ou le plus facile à manipuler ? Qui parmi eux s'intéresse au lieu, ou alors en rechignant pour montrer sa bonne volonté à s'inscrire dans un paysage. Et alors, maintenant, prendre soin du vivant, là, il ne faut pas exagérer. Pourquoi un architecte, un paysagiste, ou un artisan, ou un charpentier, se préoccuperait-il des oiseaux, des rongeurs, des insectes, qui élisent domicile dans la construction qu'ils sont en train d'effectuer ? Ménager revient pour moi à contribuer à écologiser nos manières de faire et de penser. Ainsi, par exemple, ménager une place consiste à étudier ses usages temporalisés, ce que j'appelle la chronotopie, et genrer, à observer le vivant qui s'y déploie, à questionner les gens qui y viennent, à proposer un mobilier qui convienne aux activités qui vont s'y dérouler de jour comme de nuit, et évidemment, satisfaire les populations qui vont s'y installer. Ces observations qui demandent du temps et de la réflexion ne sont que rarement intégrées au processus du projet et conséquemment ne sont pas budgétées. Or, elles sont indispensables pour imaginer une réponse de qualité singulière et originale. Le ménagement en architecture, en urbanisme, en paysagisme, en design, pour moi, se doit de pratiquer le cas par cas, le sur-mesure et le avec les habitants et le vivant. Les trois simultanément, les trois qui s'enrichissent mutuellement, les trois qui font ensemble, les trois qui s'inscrivent dans leur temporalité et dans celle qu'elles refaçonnent ou qu'elles produisent. Ménager relève d'une attitude souple, ouverte, discrète, adaptable, efficace, soucieuse d'accroître l'autonomie de chacun, humain et non humain, et le respect du déjà-là en privilégiant les interrelations entre les éléments constitutifs d'un même ensemble.
Urbanité, la belle rencontre.
Alexandre Bertrand, architecte urbaniste de 40 ans, cofondateur d'Archicity, maison d'édition indépendante et de graphisme au fonctionnement artisanal. Vous éditez des plans guides de la capitale qui associent cartographie et explication. Vous venez de publier Le boulevard périphérique, quel avenir ? Un gros volume de 424 pages avec des illustrations en couleur qui rassemble 16 points de vue sur le devenir du périph.
Sur le périph' depuis des heures, j'ai mis plein phare pour qu'en face il voit pas que je pleure. Sur le pare-brise, la crasse vient à bout de mes essuie-glaces. Portes et fenêtres condamnées, accélérateur bloqué. Oh, je regarde ma vie défiler. Mille lumières, autant d'enfer qui se croisent et se toisent, me ratifoisent. Et je vois un mur au loin qui recule à mesure. Et je sais qu'un jour viendra où le mur s'arrêtera. Mais il n'est pas de marche arrière, encore moins sur le boulevard circulaire. Tête à queue sans queue ni tête, où les radars immortalisent mon cafard. La grande spirale du voile m'engloutit, je navigue aveugle sous la pluie. Les vagues filantes, encornées de brume, déchirées, les toiles hurlantes entre les gros tonnages qui font barrage. Les marées noires qui croient m'avoir. Je joue des coups, des roules à plein pot. C'est pas ce soir qu'ils auront ma peau. Je roule tout droit sur le périph' depuis des heures. Arriveront toujours trop tard pour ramasser mes dérapages. Et je vois un mur au loin qui recule à mesure. Et je sais qu'un jour viendra où le mur s'arrêtera. Et je sais qu'un jour viendra où le mur s'arrêtera. Yeah. Et je sais qu'un jour viendra où le mur s'arrêtera.
Alexandre, d'où vous vient cette idée de cet ouvrage ?
Bonjour Thierry. L'idée de cet ouvrage, je dirais, remonte un peu à. Enfin, combine à la fois une histoire personnelle, la mienne, au vu de mon parcours d'architecte urbaniste, ayant fait et ont participé ensuite à la consultation internationale du Grand Paris au sein de l'équipe des cartes. Ensuite, associe le parcours personnel de la maison d'édition Archicity, qui s'est un peu appuyé sur les acquis de ma propre formation. Et ensuite, sur un travail de long terme, de rapport, de travail avec les auteurs et aussi les libraires avec qui on a tissé des liens très, très particuliers. Et c'est par la suite, en discutant en interne et dans mon entourage, donc en ayant plutôt des discussions de terrain, je dirais, en débattant, en réfléchissant sur le Grand Paris, que quasi systématiquement, on butait sur la problématique du boulevard périphérique. Finalement, on faisait le constat au quotidien, ou notamment aussi à travers la presse, notamment du creusement des inégalités et des problèmes, notamment dans les transports, de la dégradation des transports.
Très bien. Alors, nous le savons, je le répète, le boulevard périphérique qui encercle la capitale a été inauguré par le Premier ministre Pierre Besmer en 1973, soit 17 ans avant le début du chantier. Et il dit dans son discours qu'il est assez content que cet anneau de circulation est bien intégré au paysage. 35 km, 40 mètres de largeur, 140 hectares, 148 ponts, 23 tunnels et échangeurs gigantesques, des murs anti-bruit, pas de végétation, une pollution sonore excessivement importante, une pollution de l'air alors exponentielle, évidemment, avec le nombre de voitures, 230 000 véhicules jour, une coupure entre Paris et les communes voisines, bref, une autoroute urbaine aux inconvénients supérieurs aux qualités que lui prêtent ses partisans. Alors, nombreux sont les textes dont, je le répète, il y a 16 auteurs, dont deux femmes. Bonjour la parité, Alexandre. Et donc, la majorité de ces textes rappellent quand même l'historique. Ça, j'étais un peu surpris parce qu'ils répètent, non pas la même chose, mais...
Sur des biais, des thématiques différentes.
Voilà, un peu. Bon, mais ils disent, voilà, il y a eu une série d'enceintes fortifiées autour de la ville, etc. Puis à un moment donné, il y a le périphérique. Donc, Emmanuel Briolet, Simon Texier, Mathieu Flonneau, Arnaud Passalacqua, Guy Burgel, Paul Le Croate, etc., considèrent quand même que la création de ce boulevard était comme une sorte de fatalité, comme si toute ville qui connaissait une expansion et une croissance démographique, eh bien, devait un jour édifier un tel ouvrage d'art. Ce qui m'a surpris, c'est qu'aucun d'eux ne mentionne des mouvements oppositionnels. Tout le monde était d'accord pour ce truc.
A priori, j'aurais tendance à dire oui. Après, pour peut-être revenir sur l'histoire du livre, même dans la fabrication du livre, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, donc on a sollicité des profils très, très, très variés. Et on a dû, avec l'arrivée du contexte particulier, parce que le projet a été initié fin 2019, finalement, les auteurs entre eux se connaissaient plus ou moins, mais finalement, le travail d'écriture, ce sont des travaux d'écriture qui se sont faits les uns indépendamment des autres.
D'accord. Alors, en tous les cas, c'est intéressant parce que Mathieu Flonneau, par contre, raconte que l'histoire du périphérique ne peut être compris que si on combine cet historique à l'histoire de l'urbanisme planificateur. Les deux vont ensemble. Par exemple, Christine Auroboval, qui est une des deux femmes qui écrit, explique que s'intéresser au périphérique, ça, finalement, est secondaire. L'essentiel, c'est de prendre en considération la surdensification de la capitale et de sa première couronne. Donc, elle ne déplace pas le problème, mais elle dit s'il y a un problème de circulation, c'est parce qu'avant tout, il y a un problème de surdensification de la ville. Donc ça, tout ça est assez logique. Moi, j'ai quand même perçu, dans la plupart des textes, qu'il y a eu une influence américaine. Indéniablement, les ingénieurs des ponts et chaussées de cette époque, des années 60-70, étaient fascinés par les États-Unis. Et à cette époque-là, les villes américaines se dotaient d'immenses autoroutes urbaines qui les balafraient alors dans l'intégralité, et qui évidemment parfois avait des rocades et des périphériques. Et donc il y avait des mouvements d'opposition à Robert Moses, par exemple, qui était le grand urbaniste de New York. Lewis Mumford et Jeanne Jacobs, par exemple, se sont assis devant les bulldozers pour empêcher la création de nouvelles autoroutes à New York. En France, on n'a pas eu ça, on n'a pas eu de mobilisation citoyenne.
A priori non, mais effectivement, j'aurais tendance à relever qu'effectivement, la période des années 70, enfin, même plus largement des Trente Glorieuses, en tout cas enfin, dans le cadre de l'aménagement de la région parisienne, de l'agglomération parisienne, effectivement, enfin, quand on parle de tout automobile, enfin, je pense que c'était aussi un peu l'objet de rétablir un peu certains faits. Cette période-là des Trente Glorieuses, donc pour l'agglomération parisienne, c'était une période d'aménagement complet, peut-être sans précédent, je dirais, peut-être depuis Haussmann, où effectivement, on atteint peut-être le paroxysme de l'envahissement de l'automobile dans la ville. On retrouve très bien des photographies du plateau Beaubourg, par exemple, dans les années 70, qui est un parking entier. Il y a eu des projets aussi qui, heureusement, non achevés, non résolus, d'élargissement de rues dans les arrondissements périphériques. On voit des rues avec des immeubles en redans qui étaient des projets d'élargissement pour notamment donner plus de place aux voitures. Je dirais peut-être que si cette période-là, c'était pas... Effectivement, c'était une époque qui a donné une place considérable à l'automobile, mais c'est aussi une période où finalement, on a aussi développé les transports, puisque c'était en parallèle la période où on a aussi développé le réseau express régional, où finalement, on a pu étendre aussi de manière concentrique l'agglomération parisienne.
Le fameux RER.
Exactement.
Avec plus tard la carte orange. Hein.
Exactement.
Alors, effectivement, les photographies sont magnifiques et très, très parlantes, on va dire ça comme ça. Les échangeurs de page 47 et page 112 sont absolument effrayants. On se dit, mais c'est pas possible qu'on consacre une telle superficie pour ces espèces de grandes nouilles de bitume. Et puis, on le voit aussi avec d'autres photos qui montrent des immeubles. Par exemple, à un moment donné, il y a la tour de la justice de Renzo Piano. C'est absolument effrayant. Enfin, on se dit, mais comment on a pu accepter de construire ce truc gigantesque, bateau, lourdingue? Et puis, quelques pages plus loin, on entrevoit la tour du haut de Nouvelles en construction. Et là, on voit effectivement que le périphérique, contrairement à ce que dit Dominique Perrault, qui déclare dans un film produit par Richard Coppens sur le périphérique, que c'est la plus belle avenue de Paris. Alors là, je ne sais pas s'il avait fumé un peu trop, mais ce n'est pas possible. Enfin, on ne peut pas dire, il suffit de circuler, ou de prendre une voiture et de circuler sur le périphérique pour voir que c'est un canyon, que tous ces hôtels qui donnent sur le périphérique, je me demande comment on peut dormir. Enfin, on ne peut pas ouvrir ses fenêtres, ce n'est pas possible. Donc là, il y a bien quelque chose d'inhabitable. Alors, parmi les nombreuses propositions que vos auteurs élaborent, quelles sont celles qui vous semblent les plus pertinentes ou les plus originales ?
Je pense qu'aujourd'hui, au vu des problématiques environnementales et sanitaires, je pense que la tendance est peut-être d'aller au slow, d'arrêter un peu cette forme de frénésie de construction. Et j'étais assez intéressé notamment par le texte d'Anne Durand qui revisite la problématique de la mutabilité urbaine. Si vous voulez, je peux retrouver
non.
Un bref extrait.
Mais on va le dire aux auditeurs, elle a ce magnifique jeu de mots, elle parle du périphérique.
Tout à fait.
Alors là, on sent qu'elle a compris ce que ça voulait dire, que la mutabilité.
Tout à fait. Et j'étais aussi intéressé par le texte de Yannick Gourville, qui a une portée un peu plus philosophico-politique, comme j'ai tendance à le présenter. Bon, c'est en débat entre Yannick et moi-même. Mais finalement, il a inventé une forme de procédé via une fiction narrative où finalement, il interroge notre rapport à la Terre de manière générale et notre rapport au boulevard périphérique en particulier, qui pose notamment la question de est-ce qu'on détruit le boulevard périphérique ou pas.
Alors c'est vrai aussi, on ne va pas toutes les prendre, mais la proposition d'Arnaud Passalacqua de transformer le périphérique en potager.
Tout à fait.
Il dit qu'il y a 140 hectares qui pourraient produire des fruits et des légumes pour nourrir 28 000 habitants chaque année. Donc c'est pas rien, mais enfin, on est loin des 2 200 000 habitants de Paris.
Non, mais c'est une démonstration qui peut montrer des possibles. C'est une forme d'amorce, finalement. Et c'est un retour aussi à l'histoire... À l'histoire de la ceinture du Grand Paris.
Maraîchère.
Et plus largement, il y avait de nombreux territoires maraîchers à la périphérie. Je pense au plateau de Vitry ou au Mirapèche de Montreuil, par exemple.
Oui, oui. Alors, au moment même où, à Aubervilliers, on va supprimer des jardins ouvriers pour le fameux JO 2024. Bon, Paul Lecroire explique que des villes comme San Francisco, Séoul, Bruxelles, Helsinki ou Vancouver se sont défaits de leurs autoroutes. Donc là, il nous dit c'est faisable. Donc on peut imaginer l'abandon du périphérique en tant qu'autoroute. Maintenant, il faudra voir à quelle partie serait attribuée la place de l'automobile et la place des piétons, des cyclistes, etc. etc.
Voilà, effectivement, quel curseur les architectes urbanistes de terrain, comment ils positionneraient le curseur dans l'intervention, s'il y en a une.
Là, ils ne sont pas tous d'accord. Hein.
Voilà. Mais finalement, il y a quand même une forme de consensus. Je pense qu'ils sont tous d'accord qu'il y a une intervention qui est nécessaire. Mais après, c'est la manière de la mettre en œuvre et aussi la problématique de l'échelle. Est-ce qu'on intervient uniquement à l'échelle du pouvoir périphérique ou à l'échelle du réseau global des autours d'Île-de-France ?
Alors, Alexandre Bouton, lui, rédige un manifeste pour un périphéreux. Bon, le jeu de mots est abusant. Et il prend deux exemples, la porte de Montreuil et la porte de Malakoff. Mais en même temps, c'est un peu discutable, parce que pour la porte de Malakoff, de Vanves, il rehausse le bâtiment de l'INSEE, il en fait une tour. Du reste, de la même manière que Emmanuel Briolet est pour un urbanisme de tour. Moi, je pense que non. Enfin, je pense même avoir démontré que la tour était énergivore et inurbaine. Bon, mais voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a encore du débat. Hein. C'est ça qui est intéressant dans le livre.
Alors, tout à fait.
Mon préféré, mais évidemment, en tant qu'éditeur, vous n'avez pas à vous positionner là-dessus. Ce serait évidemment très maladroit. Mais ce qui m'a le plus réfléchir, c'est Éric Hazan. Éric Hazan, on le sait, c'est un médecin chirurgien qui a hérité de son père les éditions Hazan, et puis qui les a repris et leur a donné la dimension de la fabrique, comme on la connaît maintenant, donc des textes plutôt politiques, engagés, et c'est en même temps un amoureux de Paris. Il a écrit beaucoup sur la capitale. Et là, vous très, très, très subtilement, vous le questionnez, et là, c'est le seul qui explique que le périphérique, c'est les périphériques. C'est-à-dire que c'est un pluriel, qu'il y a une série de sessions comme ça qui se succèdent et qui ne sont pas identiques. Et donc, lui, il imagine une réorganisation, aménagement, comme je dirais moi, aménagement de ce boulevard périphérique selon ces sections-là qui ne sont pas les mêmes, qui n'appartiennent pas au même Paris. Et qui ne font pas la jonction entre des typomorphologies architecturales ou bâties identiques.
Des interventions contextuelles selon effectivement la géographie et les territoires traversés selon la sociologie, entre autres.
Dans votre fond intérieur, maintenant que vous avez édité ce livre, est-ce que vous êtes persuadé que c'est un vrai combat à mener, qu'il faut absolument métamorphoser ou faire muter le périphérique?
Oui, je le suis convaincu. J'avais effectivement un point de vue un peu personnel. Alors là, je sais pas. Je pense que je mettrai un peu en porte-à-faux les auteurs, mais je pense que mon point de vue a été infléchi grâce à toute cette matière qui a été produite par l'ensemble d'entre eux. Mais peut-être de manière un peu intuitive et à peut-être très long terme, je pense que sa transformation sera très lente et très, comme je le disais au début de l'émission, très « soft », entre guillemets.
Oui, on ne peut pas du jour au lendemain radicalement le fermer, par exemple. Ce serait très difficile.
Voilà.
Vous avez une photo qui est magnifique, c'est celle de la porte de Montreuil, où une association locale, le dimanche d'abord, et maintenant c'est pour tout le temps, transforme un bout d'autoroute, un bout de rocade, en zone piétonne et en zone de loisirs. Les gens vont s'y promener, vont jouer, etc. etc. On peut rêver de ça quand même. On peut rêver que le périphérique devienne non pas la plus belle avenue de France, ce qui est à mon avis absurde, puisqu'il n'y a pas de commerce comme dans les avenues parisiennes, l'avenue de l'Opéra, etc. etc. Pour l'instant, c'est un canyon. Donc il faut transformer le canyon en quelque chose qui soit, à mon avis, fondamentalement végétalisé. Et donc là, ça prend du temps.
Voilà, et c'est un peu, me semble-t-il, le point de vue proposé par Michel Desvignes, où lui dit que finalement le boulevard périphérique trop large a été réalisé dans un territoire trop petit pour sa dimension, et qu'il faudrait notamment peut-être investir des interstices et chercher à le végétaliser, ce qui serait une première amorce de son changement, je dirais.
Merci beaucoup.
Merci Thierry.
Et à bientôt, au revoir.
À bientôt.
Jet, whisper, jet, clipper, jet, turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Où je suis rendu, j'ai été au sud du sud, au soleil, le blanc rouge, les palmiers et les cocotiers glacés dans les peaux, aux esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. Et toujours la Sophie venait de partir sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. Absolument très salissant. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus, je suis rendu. Ah, Sophie à moi. Une compagnie qui volait sur des tapis de Turquie, c'est plus parti. Et moi, à propos, et moi, je suis rendu, je suis
suis rendu à dos de chameau. Je préfère mon Québécois, François, Northern, Eastern, Western, puis pan American. Mais je sais plus, je ne sais plus où je suis, où je suis rendu. Et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit avec mon meilleur ami et surtout mon pot de biscuit. Elle est là que j'avais ramassé sur Québec Air, Transwell, Northern, Eastern, Western, puis Pan American.
Urbanité, le sujet qui fâche.
Rémi Knafou, vous soutenez une thèse de géographie en 1978 sur les stations de sport d'hiver des Alpes. Vous créez le FIG, le Festival international de géographie à Saint-Dié-des-Vosges en 1989, doté du prix Vautrin Lude. Vous fondez le MIT, Mobilité Itinéraire Tourisme, en 1993, c'est un clin d'œil, j'imagine, au MIT de Boston à Cambridge. Vous publiez de nombreux articles et ouvrages sur le tourisme, dont « Réinventer le tourisme pour sauver nos vacances sans détruire le monde » que vous venez de publier aux éditions du Faubourg. Ce court ouvrage à l'écriture alerte veut interpeller aussi bien les touristes que nous sommes ou serons, les responsables politiques, les travailleurs des loisirs, du voyagiste à la compagnie hôtelière, en passant par le guide et le vendeur de souvenirs, le propriétaire d'un meublé Airbnb, vous commencez par dénoncer plusieurs saturations. Lesquelles et pourquoi ?
Alors, effectivement, pas mal de saturations. La première, c'est le poids des grands nombres. Nous sommes sur une planète qui est peuplée de près de 8 milliards d'habitants. Et une des modalité de l'élévation moyenne du niveau de vie, ce qui en soi est une chose heureuse, est un accès à des pratiques touristiques pour tout un tas de populations du monde en développement qui n'y avaient pas droit jusqu'à présent. Donc on ne peut plus avoir une vision du tourisme telle qu'héritée du siècle dernier, c'est-à-dire un tourisme qui a été inventé en Europe, deuxième moitié du XVIIIe siècle. On a maintenant un tourisme qui est multipolaire, le centre de gravité est en Asie, enfin tout ce que je dis c'était avant la pandémie, c'est-à-dire en 2019, et donc un flux qui jusqu'en 2019 affichait une croissance insolente, une croissance exponentielle, et que rien ne semblait devoir arrêter. Et c'est ce flux-là qui a été de facto brutalement interrompu par l'épidémie et qui probablement s'apprête à repartir dès que le virus aura baissé la garde. Et ce sur quoi je voulais attirer l'attention, c'est qu'il me paraissait nécessaire que ça ne reparte pas du même pied.
Alors, on va voir de quelle manière on va pouvoir marcher maintenant. Vous attardez aussi sur le couple d'adversaires qui prônent la tourismophobie ou la tourismophilie pour défendre une position moins caricaturale, partant d'une réalité incontestable. 1,5 milliard de touristes en 2019, selon l'Office mondial du tourisme. Et vous nous précisez que 16% d'entre eux s'en vont ailleurs, principalement des Chinois, des Allemands ou des Nord-Américains, et 84% visitent leur propre pays. Mais avant de préciser ces notions-là, il nous faut nous entendre sur le mot « tourisme ». Et vous faites référence à Norbert Elias en parlant du relâchement des contraintes. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors, je parle effectivement de Norbert Elias. J'aurais pu aussi me servir de la formule bien connue qui est attribuée à des auteurs différents d'ailleurs, selon le contexte. La vacance des grandes valeurs fait la valeur des grandes vacances. Je crois que depuis que le tourisme a été inventé, parce que c'est une invention de la société européenne du siècle des Lumières, depuis que le tourisme a été inventé, on s'est aperçu qu'il correspondait à des besoins des individus en société. Et que c'est. Alors parfois on en a douté, on a trouvé que ce n'était pas quelque chose de fondamental. Il y a eu toute une littérature sur le côté parfois superficiel ou superfétatoire du tourisme. Et en même temps, nous le constatons parce que c'est une démonstration que nous vivons. Lorsque nous sommes empêchés de faire du tourisme, eh bien, il y a un manque, il y a une frustration évidente. C'est ce que nous apprend aussi en vraie grandeur l'expérience de la pandémie. Donc, c'est ce tourisme-là, ce besoin, ce que nous appelons dans l'équipe Mythe aussi la recréation, c'est-à-dire la nécessité au sein d'une vie professionnels le plus souvent, mais pas seulement, puisque les retraités aussi participent beaucoup au mouvement touristique, les chômeurs, enfin tout un tas de populations participent au mouvement touristique. Nous avons besoin d'un certain moment de recharger les batteries, de marquer une pause, de vivre autrement, d'avoir un quotidien différent, et ceci est permis par le déplacement, parce que c'est le fait de changer de lieu, de changer de conditions de vie, de s'éloigner de la routine du quotidien qui permet à la fois à l'esprit de vivre différemment, de penser, y compris de ne rien faire. À un certain moment, on s'est beaucoup moqué des gens qui bronzaient idiots parce que c'était une formule très méprisante, mais on peut bronzer sans être idiot, c'est-à-dire on peut ne rien faire aussi, et l'esprit bat la campagne. Et c'est ainsi parfois que naissent beaucoup de projets, que naissent des réflexions. Voilà, c'est tout ce brassage qui est permis par l'exploitation du temps libre dans un lieu différent que nous apporte le tourisme et dont nous avons été privés. Mais vous rappeliez, Thierry, qu'il y avait 1,5 milliard de touristes. C'est le nombre des arrivées internationales dans le monde. Mais ça n'est que la face visible de l'iceberg, puisque l'essentiel des déplacements touristiques ne se font pas en franchissant des frontières. Et l'essentiel, par exemple, en Chine ou bien en Inde, là où sont les gros effectifs, au Brésil aussi, l'essentiel des pratiques touristiques se font à l'intérieur du pays. Hein, ce n'est qu'une, surtout en Inde d'ailleurs, ce n'est qu'une petite partie de la population qui développe des pratiques touristiques qui le fait à l'extérieur. Donc le gros de la troupe touristique, ce sont des citadins principalement d'ailleurs, des urbains, qui vont s'établir ailleurs pendant quelques jours, soit pour séjourner, soit en itinérance, mais qui ne sortent pas des frontières. Ce qui sort des frontières, c'est la partie la plus visible, c'est la partie la plus voyante, c'est la partie la plus médiatisée aussi, qui est importante économiquement, qui est importante écologiquement parce qu'elle a beaucoup plus d'impact sur notre environnement, mais ça n'est qu'une minorité de pratiques.
Vous décrivez dans votre excessivement riche ouvrage certaines destinations qui, devant l'afflux de touristes, réagissent différemment, prenant conscience des déséquilibres environnementaux et sociétaux que ce tourisme massifié génère. Je voudrais qu'on s'arrête sur certaines de ces destinations. Je les cite en vrac, puis on va les reprendre une par une. Les Baléares, Amsterdam, l'Everest, Venise, Hallstatt, par exemple. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur celles-ci ?
Sur Hallstatt en particulier, non, ou sur les celles que vous dénumérez ? Sur toutes ces localités-là participent de ce que les médias, pas simplement, l'Organisation mondiale du tourisme aussi, ont pris l'habitude d'appeler le surtourisme, qui d'ailleurs n'est que l'étiquette très contemporaine de ce qu'on appelait naguère la surfréquentation, la saturation, tout ça pour dire qu'on considère qu'il y a beaucoup de touristes, voire qu'à l'évidence, il y en a trop par rapport aux capacités d'accueil du lieu. Je crois que c'est tout à fait évident dans certains exemples qui sont pris. On a des fréquentations qui sont absolument considérables et qui posent problème. Simplement, ce que je remarque, c'est que on ne sait pas très bien à qui elles posent problème. C'est-à-dire que, en règle générale, les responsables des lieux en question crient beaucoup en disant qu'il y a trop de touristes, mais ne prennent aucune décision pour aller contre le flux touristique. C'est l'hypocrisie ou c'est la duplicité qu'on doit constater de bon nombre de responsables politiques de lieux touristiques qui ont le verbe haut et l'action basse. Donc, un peu partout, enfin Venise en est un exemple très caricatural, hein, il y a une vraie gesticulation du maire de Venise, mais en même temps, les décisions qu'il pourrait prendre, il ne les prend pas. Parce que c'est une démarche de manœuvre, puisque l'ouvrage dont on parle répond aux critères d'une nouvelle collection où il s'agit de faire des préconisations. Soit dit en passant, les universitaires sont souvent plus rodés à faire des analyses critiques que de s'engager dans des préconisations. Donc j'ai joué le jeu, j'ai essayé de faire des préconisations. Et on voit bien qu'il y a quand même des marges de manœuvre pour les destinations en question confrontées au surtourisme, entre guillemets. Il y a des possibilités d'action, mais que ces possibilités d'action sont dans l'ensemble très peu employées, par suite de manque de courage politique ou tout simplement parce qu'on préfère avoir le beurre à l'argent du beurre et en même temps se joindre au cœur des pleureuses en dénonçant le surtourisme dont on vit et qu'on continue de favoriser. Donc ça, c'est l'attitude de la plupart des responsables de destinations touristiques dites surfréquentées, mais ils pourraient très bien faire autrement. Il y a toute une série d'outils dont on peut se servir pour réguler davantage le flux touristique, mais en général, ils se gardent bien de le faire. Pour finir avec l'exemple de Venise, c'est depuis 2014 qu'on envisageait d'empêcher les navires de croisière de passer dans le canal de la Giudecca. Et il a fallu attendre la fin de la pandémie pour arriver à ce que cette mesure entre enfin en vigueur et que les navires ne viennent plus s'amarrer sur un quai de Venise, mais soient relégués dans l'arrière-fond de la lagune à Mestre. Donc voilà, on voit bien qu'il n'y a pas de volonté politique de gérer ces flux. Alors je disais que c'était préjudiciable, je demandais à qui c'était préjudiciable. Préjudiciable au lieu, c'est possible, ça dépend de la population. C'est d'ailleurs aussi pour ça que bon nombre de responsables politiques manquent de courage, c'est parce que derrière eux, il y a des lobbies de professionnels du tourisme qui ne veulent surtout pas qu'on diminue, par exemple, à Venise, le nombre des croisiéristes, parce que c'est très rémunérateur. Mais c'est aussi, j'allais dire avant tout, préjudiciable au touriste lui-même. On propose aux touristes une triste expérience de la visite en groupe massif de la ville, une ville en plus qui ne s'y prête pas, comme tout le monde le sait, ceux qui sont allés à Venise le savent bien. Ce sont des rues étroites où on se suit à la queue leu-leu et on se croise difficilement avec l'autre flux tout aussi dense qui est dans l'autre sens. Bon. Donc on voit bien que là, qu'il y a une médiocre expérience de la visite touristique, mais qui n'est en général pas quelque chose dont le système touristique se soucie beaucoup.
Certaines villes ont pris des mesures, en particulier par rapport au système du genre Airbnb.
Effectivement, plusieurs villes se sont lancées dans des mesures très, très concrètes pour contrôler les locations temporaires. Là, bon, on sait bien quels sont les effets pervers. Les effets pervers, c'est que le marché locatif de la population permanente en souffre, puisqu'il est plus rémunérateur de louer quelques semaines ou quelques mois une location temporaire que de louer à l'année. Donc, il y a un vrai problème pour la population permanente. Il y a la perturbation du rythme de vie des urbains, la concurrence des hôtels. Enfin, pour toutes ces raisons-là, des municipalités ont de bonnes raisons de vouloir intervenir. Alors, effectivement, à Amsterdam, au Baléares, à Reykjavik, où le phénomène commence à être lui aussi assez envahissant, on a pris des décisions qui sont parfois extrêmement simples, comme le fait de subordonner à une autorisation par une assemblée générale de copropriétaires le fait de mettre son logement en location temporaire de type touristique Airbnb. C'est une manière de réguler le flux et d'empêcher finalement les effets pervers, dont l'une des conséquences importantes est l'acceptabilité du tourisme par la société d'accueil. Parce qu'une société, population d'une métropole touristique, je crois, vit assez bien le fait d'avoir des touristes autour d'elle. C'est un élément d'animation, d'élévation du niveau de vie, de mixité sociale à tout point de vue, mais à la condition quand même que ça ne perturbe pas intimement le fonctionnement de la société en question. Donc il y a des régulations à intervenir et elles demandent à la fois des outils et un peu de courage politique.
C'est le cas de cette ville autrichienne, Hallstatt, qui, visiblement, les habitants ne veulent pas être transformés en personnages d'un parc à thème.
Hallstatt, c'est un cas limite, hein, parce que c'est une toute petite localité. C'est un paysage idyllique, c'est un lac enchâssé dans des montagnes à forte pente et boisées, avec un clocher. Enfin, c'est une image d'Épinal ou une sorte de forme de dessin animé, c'est-à-dire très popularisé en Asie, en Corée et en Chine. Et bon, il se trouve que moi, j'avais eu l'occasion de visiter le lieu en étant enfant. Je l'ai vu ensuite 30 ans plus tard. Je l'ai revu 50 ans plus tard. Le lieu en lui-même, il n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'effectivement, la population qu'il fréquente arrive à un niveau de saturation, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas à parquer, ça c'est tout à fait impossible, on ne peut plus bouger. Et puis surtout, là aussi, arrivent des quarts entiers de population asiatique parce que le lieu a été popularisé dans des feuilletons diffusés en Asie. Et c'est un lieu très instagrammable par ailleurs. Donc c'est un lieu qu'il faut avoir vu dans la tournée des localités européennes. Et donc arrivent là des quarts de population asiatique qui, une fois de plus, ne savent pas où elles sont. Je reviens sur ça, mais ça paraît être un leitmotiv quand on parle de bonnes pratiques touristiques, au moins savoir où on est et comment s'y comporter. J'ai vu des témoignages d'habitants indiquant que ces populations de touristes qui les visitent pendant une heure ou deux pensaient même que ça n'était pas un lieu de vie, mais que c'était un parc à thème.
Voilà, ça m'a fait penser à un film de Michael Crichton de 1973 avec Yul Brynner qui s'appelle « Monde Ouest ». Et c'est des vacanciers qui choisissent une destination thématique. Par exemple, un château de la Renaissance à l'époque de Laurent le Médicis, un village de western. Et le film montre des Américains d'aujourd'hui qui choisissent le village de western de la fin du 19e siècle. Et c'est entouré de robots, dont Yul Brynner joue le rôle d'un robot, cow-boy, sauf qu'ils sont équipés de véritables balles avec leur colt. Et quand il y a un conflit entre les touristes qui pensent pouvoir tuer des cow-boys en vrai, c'est-à-dire des faux cow-boys qui sont les robots, se font eux-mêmes tuer. Donc c'est un film d'horreur, de cette façon, hein, qui montre à quel point on inverse le processus du parc à thème. Alors, vous vous étonnez, Rémi Knafou, alors je ne sais pas comment on prononce, que Sir Bani Yas, à Abu Dhabi, ait été consacré meilleure destination touristique durable au monde en 2019. Pourquoi votre étonnement ?
Ah, c'est un faux étonnement, hein, parce que de la part...
Oui, j'imagine bien.
Rien ne m'étonne plus. Je suis en même temps très admiratif sur l'efficacité du système touristique et sa capacité à tout récupérer, à transformer le plomb en or. Enfin bon, c'est un véritable alchimiste, le système touristique. Mais on peut quand même être un peu critique vis-à-vis des excès de son efficacité. Et la destination en question, c'est un faux étonnement dans la mesure où tout cela est cousu de fil blanc et où on sait bien que, comment dire, les financements abondants dont jouissent les territoires en question ont permis de troubler le vote de l'année en question pour le destination. On a affaire à quelque chose qui est à la fois un espace de conservation naturelle et de grande artificialisation. Le tout, de toute façon, à distance de tous les lieux habités, qui demandent une débauche d'énergie pour pouvoir s'y rendre, et puis ensuite une débauche d'énergie pour faire vivre, parce que les touristes qui sont dans ces conditions d'un écotourisme assez particulier ont les mêmes exigences, voire plus qu'ailleurs, donc il faut de l'eau, il faut du froid, il faut etc. Ben, tout ceci est complètement déraisonnable, mais ça ne m'est pas paru un exemple intéressant parce que qui montre bien que quel est l'usage qu'on fait de la durabilité dans le système actuel, parce que personnellement la durabilité, je ne demanderais pas mieux à ce qu'elle fonctionne, mais le tourisme durable est pour moi dans son acception la plus fréquente, malheureusement, est une manière d'illustrer simplement la capacité de se servir d'une étiquette pour dissimuler des réalisations qui n'ont rien de durable. Et là, c'est aussi un exemple de ce type. Donc le système est suffisamment hypocrite, voire suffisamment pervers pour arriver à consacrer comme durable des destinations qui le sont fort peu.
Alors, vous préconisez un autre tourisme plus précautionneux de l'environnement, moins énergivore, moins pollueur, bien sûr. Et si vous voulez bien, on va s'arrêter sur deux modes de transport que vous pointez du doigt. Les croisières, on vient d'en dire deux mots tout à l'heure avec Venise. Vous nous précisez que de 2007 à 2017, on est passé de 15 à 25 millions de croisiéristes. Et puis aussi les avions qui utilisent un fioul lourd. Et vous nous évoquez la posture des Suédois qui ont inventé le flic-cam, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français l'avionte, c'est-à-dire le fait d'avoir honte de prendre l'avion. Est-ce qu'on peut reprendre ces deux points-là pour essayer de montrer des alternatives aux croisières et à l'avion ?
Les navires de croisière, effectivement, ils sont allés. C'est une course au gigantisme qui n'a été arrêtée que par 2019. Et encore, les navires qui sont dans les chantiers à l'heure actuelle, qui vont sortir, sont de plus en plus géants. Donc, ils vont être un peu en porte-à-faux par rapport à l'évolution de la situation telle qu'on peut la prévoir, parce que les navires de croisière ont beaucoup souffert, particulièrement même de la pandémie. On se souvient de ce navire de croisière qui est devenu un cluster et que dont personne ne voulait, et puis un autre qui a fait tout le tour de l'Amérique latine parce que chaque fois qu'il voulait se présenter en escale, on le refusait, etc. Bon, donc la croisière a connu des jours extrêmement difficiles liés à la fois au gigantisme et à l'enfermement lorsqu'un virus, évidemment, commence à s'y développer. Donc ce sont en soi des navires très polluants qui utilisent pour la plupart encore du fioul lourd. Alors il y a des progrès qui commencent à apparaître avec des fioul beaucoup plus légers, avec des navires hybrides, les premiers sont déjà en service. L'Islande est à nouveau, mais c'est un peu plus facile pour une destination comme elle, a interdit l'arrivée des navires à fioul lourd dans ces eaux territoriales a montré un peu le chemin, mais bon, on n'en est pas encore là pour le reste du monde. Mais en plus, ces navires transportent maintenant facilement 5, 6 000, 6 500 passagers. Donc, lorsqu'ils arrivent, ils saturent brutalement un lieu. Il faut imaginer ce qu'est l'arrivée, le déversement d'autant de passagers, soit directement à quai, soit par les navettes, ensuite, qu'on met à l'eau. Donc, voilà, il y a là toute une économie qui s'est développée et qui est en même temps extrêmement rémunératrice, parce qu'on sait que les escales, les ports d'escale se disputent pour accueillir les navires de croisière parce que les croisiéristes dépensent beaucoup d'argent lorsqu'ils descendent en excursion. Bon. Donc il y a là une décontradiction du système qui était maximale pour un lieu comme Venise, mais là aussi il existe des possibilités d'évolution raisonnables, disons, parce que le système va continuer à fonctionner, hein, il ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Certes, la pandémie a permis de mettre à la casse toute une série de navires qui étaient déjà un peu usagés, pour ne garder que les plus récents, les plus performants, mais ces navires géants, ils sont là, ils vont continuer à tourner. Et donc, les solutions sont peut-être de mieux répartir les escales, de les diminuer dans certains cas, d'éviter, c'est le cas de Palma de Majorque par exemple, que plusieurs navires de cette taille-là en même temps se présentent le même jour, etc. Bon, voilà, et de façon de mieux gérer et de mieux réguler les flux dans le lieu. Mais on en a encore pour quelques années, voire quelques décennies à faire avec ces navires géants, leur pollution qui ne s'arrête jamais, puisque par définition, même quand ils sont à quai, les moteurs tournent pour faire tourner tous les systèmes, la climatisation, les congélateurs, etc. Donc c'est un système très énergivore. L'avion, lui aussi, est un système qui consomme énormément d'énergie et pour lequel on n'a pas encore pour l'instant de véritables solutions de remplacement. On envisage de fonctionnement à l'hydrogène, mais on n'en est pas encore là. On va simplement essayer de les rendre un petit peu moins polluants et un peu moins bruyants. Et on va essayer aussi de faire en sorte que, mais ça, la crise y aura aidé, est-ce que les courts séjours soient moins courts, qu'en élevant le coût en particulier des vols low cost, puisqu'on était arrivé en 2019 à des situations où le prix du billet pour aller en Europe d'un lieu à un autre, en low cost, en prix d'appel, les tarifs les plus bas, le prix du billet était très inférieur au prix de la course en taxi pour aller du centre-ville à l'aéroport. Bon. Donc, c'est des situations effectivement qui favorisaient une mobilité accrue. Là, on voit bien les tarifs des low cost à l'heure actuelle qu'ils ont déjà beaucoup augmenté. Et il faut dire que comme ces compagnies sont toutes à l'agonie ou sont toutes subventionnées par de l'argent public, il faut qu'elles se refassent assez rapidement des finances présentables.
Alors, dans votre livre, et on va terminer là-dessus, vous allez défendre la notion de tourisme réflexif, mais auparavant, je voudrais revenir sur quelques thèmes qui ne sont pas véritablement traités, mais ce n'est peut-être pas l'objet de votre réflexion qui est réinventer le tourisme. Bon, vous nous parlez beaucoup de touristes alcoolisés, ça fait aucun doute, mais la dimension du tourisme sexuel, par exemple, n'est pas évoquée. Vous ne vous intéressez pas trop à l'architecture des musées, des palaces, des aéroports, etc., qui, à mes yeux, mais on peut être en désaccord là-dessus, vise à une uniformisation du bâti. Et même aussi, vous l'avez laissé entendre, à une artificialisation des abords de ces aéroports ou de ces immenses palaces dans une sorte de paysage qui est un peu un paysage standardisé. Donc peut-être que vous mettez tout ça dans votre réflexion, dans votre notion de tourisme réflexif, Rémy Gnafou.
Non, ce que vous pointez comme absence est lié d'abord à la taille du livre. C'est un livre de 128 pages, ce qui n'est pas beaucoup pour réinventer le tourisme, surtout en faisant des préconisations, donc j'ai dû faire des tris, et j'ai essayé d'aller à l'essentiel. Alors, le tourisme sexuel, est certainement quelque chose d'abominable, mais heureusement, puisque j'ai raisonné aussi en termes de flux, et pour remettre les choses à leur place, heureusement, c'est un flux ultra-minoritaire. Alors, il est notable dans certaines destinations asiatiques ou thaïlandaises en particulier, mais c'est un vrai problème de société, mais en termes de flux, c'est pas l'essentiel, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas s'y intéresser. La question de l'architecture, l'uniformisation de l'architecture a été un temps effectivement de l'évolution du tourisme. En même temps, il y a eu une autre évolution en parallèle qui était au contraire de mettre l'accent sur des caractéristiques locales de plus en plus. Le point commun à tout ça, c'est qu'en général, le tourisme et l'architecture touristique caricaturent beaucoup les choses et enflent à l'excès tous les éléments qui permettent de se distinguer les uns des autres. Bon. Alors, la réflexion sur le tourisme réflexif, c'est une réflexion qui essaye de préparer l'avenir, parce que réinventer le tourisme, je sais bien, parce que je ne suis pas né de la dernière pluie, que ça ne va pas se faire comme ça. Il y a trop d'inertie dans le système touristique, il y a trop d'intérêts en jeu pour que les choses puissent bouger rapidement. J'appelle de mes voeux ce que j'appelle une quatrième révolution touristique, qui va passer à la fois, j'y ai fait allusion précédemment, par des décisions du côté des destinations. Les destinations peuvent aussi agir sur les flux touristiques, mais je crois beaucoup aussi, heureusement, sur les micro-décisions que prendront les touristes eux-mêmes. Les changements de comportement, j'y crois beaucoup. Quand je dis que j'y crois beaucoup non pas pour ma génération ou même celle d'après, mais celle d'encore après, la génération Greta Thunberg. Je placerai davantage mes espoirs en elle, parce que d'abord c'est elle qui va vivre sur cette planète qui est un petit peu abîmée à l'heure actuelle, et en particulier c'est elle qui va vivre le réchauffement climatique. Donc elle a intérêt à comprendre bien les enjeux et à adapter ses pratiques, tout en ne renonçant pas, parce que c'est ça l'enjeu, tout en ne renonçant pas à des mobilités qui sont aussi, j'y insiste pour ma part, qui ont une dimension positive très importante. Je pense qu'il ne faut pas renoncer à aller voir les autres sans pour autant éviter de réfléchir à une nécessaire conciliation entre tourisme et écologie. Ça me paraît une nécessité absolue. Mais pour ça, pour que les pratiques évoluent, je pense qu'il faut introduire dans le système une réflexivité, c'est-à-dire, quand je dis tourisme réflexif, je pense à un tourisme qui permet à chacun de questionner ses pratiques, ses vacances, les lieux où l'on va, ce qui suppose de savoir, pour faire référence à ce que j'ai dit tout à l'heure, où on se trouve, et ainsi de suite. Donc c'est à partir de ces questionnements que les choses pourront évoluer, et je donne quelques exemples de déclencheurs de réflexivité dans un certain nombre de lieux qui, tout en ne l'appelant pas au départ réflexif, se sont engagés dans un processus de ce type qui consiste à poser des jalons, parfois très allusifs, très furtifs, qui, dans l'espace public, incitent le touriste à se poser des questions pour comprendre ce dont il s'agit, pour comprendre où il se trouve, comment tout ça fonctionne. Je crois beaucoup à des démarches de ce type, parce qu'il se trouve que j'ai eu l'occasion de les appliquer in situ à la faveur de mon expérience professionnelle au mémorial du camp des Milles à Aix-en-Provence, ou à côté de l'histoire de ce camp d'internement durant la Seconde Guerre mondiale et de toute la muséographie qui va avec. Nous avons développé une réflexion sur les enjeux afin de comprendre les mécanismes, les processus qui conduisent à partir d'un terreau favorable à un enchaînement de mécanismes qui, en l'occurrence, puisque c'était le cas de la Seconde Guerre mondiale, ont abouti à des massacres de masse et notamment à la Shoah. Voilà, donc c'est à partir de cette expérience d'un volet réflexif au sein du camp des Milles que j'ai développé la notion de tourisme réflexif, c'est-à-dire comment inciter les touristes à se penser acteurs du lieu et avoir une réflexion critique sur leurs pratiques de touristes, et comment inciter les destinations touristiques à créer des conditions favorables à ces interrogations et à la construction d'un avenir meilleur qui permette à la fois de concilier une planète dont on connaît les évolutions, en particulier climatiques, et l'appétit, l'attente de mobilité, de développement touristique qui est celui de cette planète, de cette population de 8 milliards d'habitants.
Merci Rémi Knafou. Dernière question, vous allez où en vacances ?
Alors, où je vais en vacances ? Je vais en vacances dans des localités qui sont les plus dépaysantes pour moi. Je cherche le dépaysement. D'abord, si c'est à l'étranger, c'est par exemple vers les civilisations nordiques, parce que je suis un Méditerranéen qui aime le froid.
Merci beaucoup et bel été à vous.
Merci à vous.
Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.